Cet essai est dédié à l'homme ordinaire, héros commun, personnage disséminé, marcheur innombrable. Ce héros anonyme vient de très loin. C'est le murmure des sociétés. De tout temps, il prévient les textes. Il ne les attend même pas. Il s'en moque. Mais dans les représentations scripturaires, il progresse. Peu à peu, il occupe le centre de nos scènes scientifiques. Les projecteurs ont abandonné les acteurs, possesseurs de noms propres et de blasons sociaux, pour se tourner vers le cœur des figurants massés sur les côtés, puis se fixer enfin sur la foule du public. Lentement, les représentants, hier symbolisateurs de famille, de groupe et d'ordre, s'effacent de la scène où ils régnaient quand c'était le temps du nom. Le nombre advient, celui de la démocratie, de la grande ville, des administrations, de la cybernétique. C'est une foule souple et continue, tissée, serrée comme une étoffe, sans déchirure ni reprise. Une multitude de héros quantifiés qui perdent noms et visages en devenant le langage immobile de calcul et de rationalité n'appartenant à personne. Fleuve chiffré de la rue. Cette érosion et dérision du singulier ou de l'extraordinaire, l'homme sans qualité l'annonçait. Peut-être est-ce précisément les petits bourgeois qui pressent l'aurore d'un nouvel héroïsme, énorme et collectif, à l'exemple des fourmis. Au vrai, l'advenue de cette société fourmilière a commencé avec les masses, premières soumises au quadrillage de rationalité nivellatrice. Le flux est monté, il a ensuite atteint les cadres possesseurs de l'appareil, cadres et techniciens absorbés dans le système qu'ils géraient. Envahis, enfin, les professions libérales qui s'en croyaient protégées et les belles âmes littéraires ou artistiques. Dans ces eaux, ils roulent et dispersent les œuvres, jadis insulaires, muées aujourd'hui en gouttes d'eau dans la mer, ou en métaphore d'une dissémination langagière qui n'a plus d'auteur, mais devient le discours ou la citation indéfinie de l'autre.
À l'origine de l'art poétique dans son ensemble, il semble bien y avoir deux causes, toutes deux naturelles. Imiter est en effet, dès leur enfance, une tendance naturelle aux hommes. Et ils se différencient des autres animaux en ce qu'ils sont des êtres fort enclins à imiter et qu'ils commencent, tendance commune à tous, de prendre plaisir aux représentations. L'imitation, la mélodie et le rythme, car il est évident que les maîtres sont une partie des rythmes, nous étant naturels, ceux qui, à l'origine, avaient les meilleures dispositions naturelles en ce domaine, firent peu à peu des progrès, et à partir de leurs improvisations, engendrèrent la poésie. Mais la poésie se divisa suivant le caractère propre à chacun. Ceux qui avaient une âme noble imitaient les belles actions et celles de leurs pareils. Ceux qui étaient plus vulgaires imitaient les actions des hommes bas en composant d'abord des blâmes, tout comme les autres composaient des hymnes et des éloges.
Comme un héros, de pouvoir justement de pouvoir satisfaire qu'est-ce qu'un autre, de pouvoir faire son métier ou son travail comme le sang.
Vous êtes un héros.
Comment le faire, voilà. Ça, c'est tout simple. C'est...
Ce que j'aime bien, c'est les gens qui, sur leur place de travail, alors oui, ils ne prennent pas des grandes théories, ça révolutionnaire, mais sur leur place de travail, ils font régner une certaine justice. Ils arrivent à s'insurger comme des choses ne sont pas justes, sur leur lieu de travail, des fonds des collègues, etc. Ça, je trouve que c'est vrai. Ça, j'aime bien ça, parce qu'ils se mettent au jeu, c'est pas juste des idées, mais c'est, je suis sur ma place de travail.
Ils appliquent.
Ouais, je risque des choses, je risque de me faire envoyer, je trouve que les gens sont, il y a pas mal de gens, c'est admirable à ce niveau-là.
C'est une faiblesse humaine, à laquelle on peut à peine échapper, que de céder à la tentation de s'admirer un peu parce qu'on a regardé un peu plus loin et un peu plus profond que le commun des mortels. Ceux-ci, à leur tour, ont un tel besoin de trouver quelque part un héros incarné ou un sujet supérieur, un chef ou un père, bref, une autorité indiscutable, qu'ils sont tout disposés à ériger des temples et à encenser des idoles. Cet état d'assujettissement ne relève pas seulement de la lamentable stupidité des rabâcheurs dépourvus de jugement, mais aussi d'une loi psychologique de la nature qui exige que ce qui était soit répété toujours, à nouveau, à l'infini. Il en sera ainsi tant que la conscience n'aura pas interrompu la répétition impulsive et la matérialisation naïve des images primordiales. Je ne sais s'il est souhaitable que la conscience altère les lois naturelles. Tout ce que je sais, c'est que la conscience, de temps en temps, les modifie et que cette démarche est une nécessité vitale pour certains humains. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs, souvent, ces mêmes humains de se remettre eux-mêmes sur le trône du Père pour rendre une fois de plus à la règle antique sa vérité première. Oui, c'est au point qu'il faut se demander comment on peut envisager et espérer échapper à la toute-puissance des images primordiales.
En débutant, les 12 mois s'appelaient décembre. Quelle vie ont eu nos grands-parents entre l'absinthe et les grands-messes? Ils étaient vieux avant que d'être 15 heures par jour, le corps en laisse, laisse au visage un teint de cendre. Oui, notre monsieur, oui, notre bon maître, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? On ne peut pas dire qu'ils furent esclaves, de là à dire qu'ils ont vécu. Lorsque l'on part aussi vaincu, c'est dur de sortir de l'enclave. Et pourtant l'espoir fleurissait dans les rêves qui montaient aux yeux des quelques ceux qui refusaient de ramper jusqu'à la vieillesse. Oui, notre bon maître, oui, notre monsieur, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Si par malheur il survivait, c'était pour partir à la guerre, c'était pour finir à la guerre. Aux ordres de quelques sabreurs qui exigeaient du bout des lèvres qu'ils aillent ouvrir au champ d'horreur leurs 20 ans qui n'avaient pu naître, et ils mourraient à pleine peur, tout miséreux, oui, notre bon maître, couvert de près, oui, notre monsieur. Demandez-vous, belle jeunesse, le temps de l'ombre d'un souvenir, le temps du souffle d'un soupir. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès?
Le malin petit tailleur. Il était une fois une princesse, terriblement orgueilleuse, qui donnait quelque chose à deviner à ses prétendants et les renvoyait sous les quolibets quand ils n'avaient pas deviné. elle en vint à faire annoncer publiquement que celui qui devinerait son énigme serait son époux, et que pouvait se présenter qu'il voudrait. Il y eut, pour finir, trois tailleurs qui se mirent sur les rangs. Les deux plus âgés pensaient avoir su coudre tant de points délicats et subtils, avoir montré tant de finesse, qu'ils ne pourraient pas faillir l'un non plus. Le cadet, joyeux petit compère qui ne savait rien faire, ni même coudre convenablement, comptait, lui, sur sa chance. Sinon, que ferait-on jamais ? « Reste donc à la maison, lui dirent les deux autres. Avec le peu de science que tu as, il ne faut pas viser trop haut. » Mais le petit tailleur ne se laissa pas éconduire. Elle leur répondit qu'il s'était mis en tête d'y aller et saurait bien se débrouiller. Il y alla, avec autant d'assurance que si le monde entier eût été à lui. Ils se firent annoncer tous les trois à la princesse, lui disant qu'elle n'avait qu'à leur proposer son énigme et qu'elle trouverait à qui parler, qu'ils avaient l'esprit si fin qu'on pouvait l'enfiler par le trou d'une aiguille. La princesse leur dit « J'ai sur la tête deux sortes de cheveux. De quelle couleur sont-ils ?»« Pas difficile, dit le premier tailleur. Ce sera le noir et le blanc, tel ce tissu qu'on nomme poivre et sel. »« Mauvaise réponse, dit la princesse, au second parler. » « Si ce n'est pas noir et blanc, dit le second, c'est que c'est brun et roux, comme l'habit de fête de monsieur mon père. »« Mauvaise réponse, dit la princesse. » »« Au troisième de parler, et je prévois déjà qu'il sait, sûrement. » Le petit tailleur s'avança hardiment et dit « La princesse porte sur la tête une coiffure d'argent et d'or, et ce sont les deux couleurs. » La princesse blêmit en entendant ces mots, et pour un peu, elle serait tombée à la renverse, car le petit tailleur était tombé juste, alors qu'elle se sentait bien assurée qu'aucun homme au monde ne pourrait y arriver. En retrouvant son cœur, elle dit « Tu ne m'as pas encore gagné avec cela, il faut encore que tu accomplisses une chose. J'ai un ours en bas, dans l'écurie, et tu dois passer une nuit avec lui dans sa cage. Quand je me lèverai demain, si tu es encore vivant, alors, tu m'épouseras. » Mais elle pensait bien s'être débarrassée à tout jamais du petit tailleur par cette condition, car l'ours n'avait jamais laissé en vie l'être humain qui lui était tombé dans les pattes. Le petit tailleur, sans s'émouvoir le moins du monde, se sentit satisfait et se dit qu'il ne risque rien à rien, et la fortune sourit aux audacieux. Le soir venu, notre petit tailleur fut amené à l'ours, qui était tout à fait d'humeur à en finir au plus vite avec ce petit personnage en lui souhaitant une cordiale bienvenue à coups de griffe. « tout doux, dit le petit tailleur, je vais tout de suite te calmer. » Et très tranquillement, le voilà qui tire des amandes de sa poche et en casse quelques-unes entre ses dents. L'ours eut tout de suite envie d'en avoir lui aussi, et le petit tailleur en tira toute une poignée de sa poche. Mais ce n'étaient pas de vraies amandes cette fois. C'était des cailloux qui en avaient la couleur et la forme. L'ours eut beau mordre dessus tant qu'il voulut, rien à faire pour les casser. « Oh là !» pensa-t-il vexé. « Es-tu si maladroit que tu ne puisses même pas te casser tes amandes ?» Alors, il demanda au petit tailleur de bien vouloir les lui ouvrir. Et le petit homme prit une véritable amande entre ses doigts et crac, la cassa. Avoir une si grande gueule et n'être même pas capable de casser une amande, ce que se moqua le petit tailleur. Tu peux voir quel pauvre type tu es. Il faut que j'essaye encore, dit l'ours. Quand je te vois faire, il me semble que ça doit aller tout seul. Le tailleur lui donna quelques cailloux sur lesquels il travailla, mordit, serra de toute la force de ses mâchoires. Mais vous comprenez bien qu'il ne put casser rien du tout. Quand le pauvre ours eut fini de s'escrimer pour rien, le petit tailleur sortit un violon et se mit à jouer un petit air sur lequel l'ours, ravi, se mit à danser aussitôt. Et cela lui plut tellement qu'au bout d'un petit moment, il demanda au tailleur si c'était difficile d'apprendre le violon. Oh, « Oh, tout à fait enfantin !» répondit le tailleur. « Regarde, tu mets la main gauche ici, les doigts sur les cordes, et de la droite, tu fais aller l'archet. Et hop, tralari, tralala. Y a-t-il rien de plus gai que cela ?» « Ah, dit l'ours, jouer comme cela, voilà ce que j'aimerais apprendre. Je pourrais danser aussi souvent que l'envie m'en prendrait. Qu'est-ce que tu en dis? Veux-tu m'apprendre? Avec plaisir, si tu as le don, répondit le petit tailleur. Mais fais-moi voir d'abord un peu tes pattes.
Oh, oh, mais c'est bien trop long, ces griffes. Il faut d'abord que je te les raccourcisse un peu. Avec des ongles pareils, on ne peut pas jouer.
Il réclama un étau qu'on lui apporta.
L'ours plaça ses pattes dedans. Et le petit tailleur serra de toutes ses forces avant de lui dire
« Maintenant, attends que j'aille chercher les ciseaux. »
Mais il n'en fit rien et laissa l'ours gronder, grogner tant qu'il lui plut. Car lui, il était allé se choisir un petit coin pour dormir et dormit, confortablement couché sur la paille.
La princesse, quand elle entendit l'ours grogner si terriblement dans la soirée, se dit qu'à coup sûr, l'ours avait fait son affaire au tailleur. Aussi se leva-t-elle d'excellente humeur et sans le moindre tracas. Mais quand elle jeta un coup d'œil en direction des écuries et vit le petit tailleur se promener tout gaillard devant la porte, aussi vif qu'un poisson dans l'eau, elle en eut le souffle coupé. Mais que pouvait-elle contre cela? Elle avait donné sa parole et s'était engagée officiellement. Le roi fit donc venir un carrosse dans lequel la princesse dut monter avec le petit tailleur pour se rendre à l'église et y recevoir la bénédiction nuptiale. Mais les deux autres tailleurs, mauvais de cœur et jaloux du bonheur de leurs camarades, profitèrent de ce qu'ils étaient dans le carrosse et en chemin vers l'église pour aller libérer l'ours, qui se lança furieux à sa poursuite. La princesse l'entendit grogner, gronder furieusement derrière elle. « Oh !» s'écria-t-elle, « l'ours est derrière nous, il veut s'emparer de toi !» Le petit tailleur fut prompt. Il se mit en équilibre sur la tête, passa ses deux jambes par la fenêtre et cria à l'ours « Tu le vois, cet étau ? Si tu ne t'en vas pas, tu vas t'y retrouver serré. » Rien qu'à cette vue, l'ours fit demi-tour et s'enfuit au plus vite. Alors, notre petit tailleur put se faire conduire tranquillement à l'église, où il fut marié à la princesse, avec laquelle il vécut heureux, sans souci et content, comme un pinson au printemps. À qui ne le croit pas, il en coûte un écu. L'agent du spectacle mis en scène comme vedette est le contraire de l'individu, l'ennemi de l'individu en lui-même, aussi évidemment que chez les autres. Passant dans le spectacle comme modèle d'identification, il a renoncé à toute qualité autonome pour s'identifier lui-même à la loi générale de l'obéissance au cours des choses. La vedette de la consommation, tout en étant extérieurement la représentation de différents types de personnalités, montre chacun de ces types ayant également accès à la totalité de la consommation et y trouvant pareillement son bonheur. La vedette de la décision doit posséder le stock complet de ce qui a été admis comme qualité humaine. Ainsi, entre elles, les divergences officielles sont annulées par la ressemblance officielle, qui est la présupposition de leur excellence en tout. Les gens admirables, en qui le système se personnifie, sont bien connus pour n'être pas ce qu'ils sont. Ils sont devenus grands hommes en descendant au-dessous de la réalité de la moindre vie individuelle. Et chacun le sait.
L'important, c'est, oui, c'est un réseau. C'est-à-dire que se construit dans le quartier des réseaux. Et c'est ça, moi je dis c'est la base, où qu'il soit. Vous avez un chien, vous avez des enfants, vous prenez le bus, vous promenez, juste parler aux gens un petit peu, juste être. Et c'est des cadeaux. Et aujourd'hui, je vais chercher mes cons.
Je pense que les mangas, il y a beaucoup de femmes.
Kakaroto, tu es vraiment incroyable. Je ne fais absolument pas le poids face à Majin Buu. Tu es le seul à pouvoir lui tenir tête. J'ai l'impression que je savais depuis le début pourquoi je n'ai jamais pu te rattraper, alors que je suis un génie du combat. Je croyais que c'était parce que tu avais toujours quelqu'un à défendre. Le désir de protection peut donner naissance à une force insoupçonnée, c'est vrai. Mais actuellement, moi aussi j'ai une famille à protéger. Je me suis toujours battu pour imposer ma volonté, pour le plaisir, pour tuer mes adversaires, et aussi par fierté. Alors que lui, il ne se bat pas pour gagner, mais pour ne pas perdre, et pour dépasser ses propres limites, encore et encore. Il ne veut pas à tout prix prendre la vie de son adversaire. Même moi, il ne m'a pas tué. Comme s'il savait qu'un jour, j'allais devenir meilleur, un peu plus humain, comme aujourd'hui. Il est exaspérant. Un gentil Saiyan qui adore se battre, c'est complètement paradoxal. Vas-y, Kakaroto. C'est toi le number one.
Un héros. Bonne question. Je sais pas, un héros, je pense que c'est... Je donnerais deux définitions. La première, c'est comme je le voyais quand j'étais petit, le héros le super-héros de dessin animé, celui, je sais pas, un peu l'allégorie de la force, la puissance, du savoir, de l'intelligence. Enfin, il a toutes les bonnes qualités, en fait. C'est un peu l'homme parfait. Alors, je dis l'homme parfait parce qu'il y a, à l'époque, c'est vrai qu'il n'y a pas tellement d'héroïnes. Il y en avait deux, trois, mais c'était surtout des super-héros. Donc, c'était Batman, que j'adorais, Superman aussi, c'est un peu moins suivi. Il y avait Spider-Man, enfin tous ces super-héros.
D'accord, ouais.
Connu, quoi. Mon phare, c'était quand même Son Goku dans Dragon Ball Z. Ouais. Encore maintenant, je regarde les épisodes et je trouve ça magnifique, quoi. Mais ça, c'est un peu la vision du super-héros qu'on avait peut-être quand on était petit. Et puis, c'est un truc qui est fantastique, et du coup, imaginaire et pas réaliste. Maintenant, si je devais dire un héros, c'est vrai qu'il n'y a plus le mot super devant, c'est peut-être parce qu'il n'y a plus de super pouvoir. Un héros, je dirais que c'est quand même une personne qui pour nous représente peut-être vers quoi on a envie de se diriger, ou qui est l'image de ce qu'on voudrait être. Et quand je dis justement l'image de ce qu'on voudrait être, il y a peut-être ce côté où c'est une image, c'est quelque chose qui n'est pas accessible, c'est peut-être une espèce de fil rouge, je ne sais pas comment dire, quelque chose vers quoi on a envie de se diriger, mais qu'on n'arrivera certainement pas à atteindre.
Dans la masse règne de plus en plus la participation mystique, qui n'est rien d'autre qu'une identité inconsciente. L'homme, par exemple, va au théâtre. Aussitôt, tous les regards sont suspendus à tous les regards. Chacun regarde l'autre et tous sont rattachés aux fils invisibles de la relation inconsciente, réciproque. Si cet état s'accentue, on se trouve littéralement porté par la vague générale d'identification. Ce peut être un sentiment agréable, brebis parmi 10 000 brebis. Ou bien, si j'entends dire que cette foule est une grande et merveilleuse unité, alors je suis un héros grandi par le groupe. Si ensuite je reviens à moi, je découvre que je m'appelle un tel ou un tel et que je demeure dans telle ou telle rue, au 3e étage, et qu'au fond, cette histoire a été bien belle. Espérons qu'elle recommencera demain, pour que je puisse me sentir encore comme un peuple tout entier, ce qui vaut mieux que d'être le banal X ou Y. Comme c'est là une manière plus aisée et plus commode d'élever la personnalité à un rang supérieur, l'homme a toujours constitué des groupes qui facilitaient les expériences collectives de métamorphose, souvent sous la forme d'une sorte d'ivresse. la réidentification avec des états de conscience inférieurs et plus primitifs est toujours liée à une élévation du sentiment d'être.
Tel était le fils de Lugalbanda, Gilgamesh, à la force accomplie, l'enfant de la vache sublime, Ninsuna la buffesse. Tel était Gilgamesh, parfait, éblouissant. Lui qui ouvrit les passes des montagnes, creusa des puits sur la nuque des monts, passa la mer immense jusque la douceur le soleil, et explora l'univers entier en quête de la vie sans fin, poussant avec hardiesse jusqu'à Utnapishti le lointain, restaurateur des sanctuaires qu'avait anéanti le déluge. Entre la multitude des hommes, il n'y en a pas eu un qui pût rivaliser avec lui en souveraineté et déclarer comme lui « Le roi, c'est moi, moi seul ». Ce Gilgamesh, dès sa naissance, était prestigieux. Dieu aux deux tiers, pour un tiers homme, la forme de son corps, Mah l'avait dessinée, elle en avait agencé la figure.
Quand j'étais un enfant qui dessine des bons hommes sur ses cahiers, j'avais un moment solennel. C'était quand je mettais à mes bons hommes des yeux. Quels yeux ? Je sentais que je leur donnais la vie et je sentais la vie que je leur donnais. J'avais les sensations de celui qui souffle sur la boue.
Et, quand le sol eut de nouveau recouvert cette race, Zeus, fils de Cronos, en créa encore une quatrième sur la glèbe nourricière, plus juste et plus brave, race divine des héros que l'on nomme demi-dieux et dont la génération nous a précédés sur la terre sans limite. Ceux-là périrent dans la dure guerre et dans la mêlée douloureuse, les uns devant les murs de Thèbes aux sept portes, sur le sol cadméen, en combattant pour les troupeaux d'Oedipe. Les autres au-delà de l'abîme marin, à Troie, où la guerre les avait conduits sur des vaisseaux pour Hélène aux beaux cheveux et où la mort qui tout achève les enveloppa. À d'autres, enfin, Zeus, fils de Cronos et père des dieux, a donné une existence et une demeure éloignée des hommes en les établissant aux confins de la terre. C'est là qu'ils habitent, le cœur libre de soucis, dans les îles des bienheureux, au bord des tourbillons profonds de l'océan, héros fortunés pour qui le sol fécond porte trois fois l'an une florissante et douce récolte.
L'origine du spectacle est la perte de l'unité du monde. Et l'expansion gigantesque du spectacle moderne exprime la totalité de cette perte. L'abstraction de tout travail particulier et l'abstraction générale de la production d'ensemble se traduisent parfaitement dans le spectacle, dont le mode d'être concret est justement l'abstraction. Dans le spectacle, une partie du monde se représente devant le monde et lui est supérieure. Le spectacle n'est que le langage commun de cette séparation. Ce qui relie les spectateurs n'est qu'un rapport irréversible au centre même qui maintient leur isolement. Le spectacle réunit le séparé, mais il le réunit en tant que séparé.
Si tu veux, par exemple, demande à Louis qui sont ses héros.
Ouais.
Louis, qui sont vos héros ? Eh bien, regarde, Al Capone, Guevara, Malcolm X, Gandhi, voilà. Robinson, Mama Barker, Castro, Van Gogh, Sartre, Bob Dylan.
tu vois. Il s'identifie avec tous les perdants. On se prépare à faire. On va l'aider, il s'est laissé entourer par tous les baraquins. C'est comme ça que nous les battons. Il n'y a que des combines, il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs, rien des combines et de la merde. Il n'y a pas de saint, il n'y a pas de génie, rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Alors, c'est vrai, pas peur.
Le spectacle se présente comme une énorme positivité indiscutable et inaccessible. Il ne dit rien de plus que ce qui apparaît est bon, ce qui est bon apparaît. L'attitude qu'il exige par principe est cette acceptation passive qu'il a déjà en fait obtenue par sa manière d'apparaître sans réplique, par son monopole de l'apparence. Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s'annonce comme une immense accumulation de spectacles. Tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation.
Il y a trois manières valables d'expliquer la domination de Federer. L'une a trait à la métaphysique, au mystère, et est, selon moi, la plus proche de la vérité. Les autres explications sont plus d'ordre technique et permettent une meilleure analyse journalistique. L'explication métaphysique tient du fait que Federer est l'un des rares athlètes qui, de façon innée, semble être affranchi de certaines lois physiques. À l'instar de Michael Jordan, qui pouvait non seulement sauter inhumainement haut, mais en plus rester suspendu une ou deux secondes de plus que ce que le permet la loi de la gravité, à l'instar aussi de Mohamed Ali, qui pouvait réellement flotter à travers le ring pour donner trois coups dans le temps d'un seul. Il y a peut-être une demi-douzaine d'exemples depuis les années 60. Federer est de ce genre-là, que l'on peut qualifier de génie, ou mutant, ou avatar. Il n'est jamais pressé ou dépassé. La balle qui approche reste dans sa raquette une fraction de seconde de plus que ce qu'elle devrait. Ses mouvements sont plus agiles et souples qu'athlétiques. Tout comme Ali, Jordan, Maradona et Gretzky, il semble à la fois plus et moins important que les hommes qu'il affronte. Particulièrement au tournoi de Wimbledon. Tout de blanc vêtu, il ressemble, je trouve, à ce qu'il est le mieux. Une créature dont le corps est à la fois chair et en quelque sorte lumière. Cette chose à propos de la balle, qui se dépose sur sa raquette délicatement, comme si elle était possédée par la volonté du Suisse, révèle une vérité métaphysique. Mais aussi l'anecdote suivante. À l'issue d'une demi-finale, un 7 juillet, durant laquelle Federer a détruit Jonas Björkman, il ne l'a pas seulement battu, il l'a détruit. Juste avant la traditionnelle conférence de presse d'après-match, Björkman, qui tient Federer en amitié, dit qu'il était honoré d'avoir le meilleur siège pour regarder le Suisse jouer un tennis si proche de la perfection. Après quelques échanges bon enfant, Björkman demande à Federer comment est-ce que la balle pouvait mystérieusement lui sembler si grande. Federer lui confirme que la balle était comme une balle de bowling ou de baseball. Manière taquine et modeste de rassurer Björkman et de confirmer qu'il est lui-même surpris d'avoir si bien joué ce jour-là. Mais cela révèle aussi ce à quoi ressemble le tennis pour lui. Imaginez que vous êtes un joueur de tennis de haut niveau, doté de façon innée, de réflexes, d'une coordination et d'une rapidité supérieure à la moyenne. Lorsque vous jouez, votre expérience ne sera pas celle d'avoir la sensation de posséder des réflexes phénoménaux et une rapidité hors du commun, mais plutôt que la balle est plus grosse et qu'elle se déplace plus lentement et que vous avez en toutes circonstances beaucoup de temps pour la taper. Autrement dit, vous ne pourrez jamais faire l'expérience empiriquement réelle de la vélocité et de l'habileté que le public vous attribuera lorsqu'il suit la balle sifflante se déplacer si vite qu'elle devient évanescente.
Monsieur le Président, Je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis née, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle aide dans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je mendierai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre, vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je serai en armes et que je sais tirer.
Octobre, 70e anniversaire du général. Avalanche de lettres, de télégrammes, d'articles, de cadeaux. Les salons du rez-de-chaussée se transforment en loge d'artistes, un soir de grande première. Je pense qu'il est très naturel, au fond, d'aimer son chef, et qu'une telle affection se rencontre souvent dans la vie militaire. Mais pour nous, ces officiers, ces collaborateurs de chaque jour, il y a, dans l'attachement que nous portons au général, quelque chose qui passe les traits de caractère qu'on loue habituellement chez lui. La bonté, le sens de la justice, la vivacité, la jeunesse d'impression. Quelque chose qui attire non seulement ses semblables ou ses complémentaires, mais aussi les hommes qui semblent assez éloignés de lui par la formation, la tournure d'esprit et les idées, dès que ces hommes sont appelés à partager son temps. Et c'est, chez le général, le don non seulement de goûter la vie, mais de lui donner son sel, de jour en jour, au travail comme en voyage et dans les moments de loisir, le don de vivre intensément dans le cadre qui lui est naturel, dans le cadre de son pays. Parce que le général se représente et partage si vivement l'existence de ce pays qu'il le connaît et l'aime si bien. Et inversement, parce qu'il y trouve son vrai climat, son point d'application. Voilà pourquoi, sans doute, il aime tellement la vie et nous incite à l'aimer avec lui.
Divin rejeton de Laërte, industrieux Ulysse, tu veux donc, malheureux, mettre le comble à tes exploits ? Comment as-tu osé venir chez Hadès, où séjournent les morts privés de sens, les ombres des pauvres humains ? À ces mots, je pris la parole et je lui répondis. Ô Péléide d'Achille, ô le plus fort des Achéens, je suis venu ici interroger Tirésias pour savoir comment regagner la rocailleuse Ithaque, car je suis encore loin de l'Achaïe et n'ai pas mis le pied chez moi. Le malheur me poursuit. Mais toi, Achille, quel mortel fut ou sera jamais plus heureux que toi ? Jadis, quand tu vivais, nous t'honorions autant qu'un dieu. Aujourd'hui, c'est ici, c'est sur les morts que ta puissance s'affirme avec éclat. Ne regrette donc pas la vie. Ainsi parlais-je, et lui tout aussitôt de me répondre, ne cherche point à m'adoucir la mort, ô noble Ulysse. J'aimerais mieux, simple valet, être au gage d'autrui, d'un pauvre laboureur n'ayant pas beaucoup de ressources, que de régner sur le peuple inconsistant des morts.
Let's go!
c'est des héros assez infantiles, que je suppose dans un premier temps. Ouais, des gens comme. Ouais, tu vas penser à Zorro ou des choses comme ça. Et puis après, eh ben. Ouais. Les figures féminines. Maintenant, t'en parles, je ne sais pas si j'aurais spontanément cité une figure féminine, si tu m'en avais pas parlé comme ça. Par contre, je trouve que j'ai dans mon panthéon une série de femmes quand même. Ben, il y aurait Louise Michel, qui était une des femmes de la Commune de Paris, je trouve que c'était une femme incroyable, hein, qui sortait du peuple, qui s'est... Et il y a Angela Davis, celle qui faisait partie des pantalons aux États-Unis dans les années 60.
Les adultes, je n'étais étudiante, on ne pouvait pas voter parce qu'on avait des femmes, ça me trouvait ça complètement injuste. Et les affiches, les trois, quand ça fait tellement rire, les gens que je suggère pour la naturalisation, qui sont évidemment pas venus au même monde, comme je leur parle, les trois cas, Kirchet, Kinder, Cuchet, église, cuisine et maison.
Toi, c'est le discours de l'idée, c'est aujourd'hui.
Oui, bah, évidemment, ça va changer. Oui, ça va changer. Alors là, et en 59, il y avait eu, à l'époque, il y avait une émission satirique à la radio qui s'appelait Mardi les gars, qui était jouée par Michel, ils sont tous morts. Enfin, c'était il y a longtemps, bah, ça va pas. Et ça avait fait une émission de rôle ce jour-là sur les renégats de la Suisse que nous étions, nous les Gaulois, parce qu'on était les seuls à pouvoir voter en 59. Le Châtel, après, a pris la suite, mais et la Suisse entière en 71.
C'est ça, c'est ça que j'avais dit.
On était là, risés, nous on était à Paris à l'époque, on a risé les Français.
Oui, évidemment.
Hein. Ah, vous, Paris, vous pouvez voter, vous les Suisses. Sans parler d'un peu de obligé, moi je boycotte le fromage en pizza, c'est pas possible. Je me reste au travers de la gorge. Je suis
fou. Le matin à 5h, pour aller travailler à Saillon, il descendait à pied. Ils erraient à Saillon, tout au sommet du village, ils erraient à Saillon. Et on commençait le travail à 7h, toute la journée par la rigueur du soleil, courbé dans ses lignes, sulfate qui lui montait dans le nez. Manger à sec, pain et fromage, boire du café, travailler jusqu'à 6 heures le soir. On montait à pied, il fallait au moins 2 heures le soir pour monter. Et un soir, au milieu de la semaine, je trouvais un billet sur la table. Ce soir, pour monter au Mayen, donc de bleu, puis Saillon, pour aller aux Zora, encore une heure depuis la maison. Qu'est-ce qu'il y a? Le gamin est malade, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Une bonne femme pour monter avec moi. Je suis quand même montée. Arrivée au Mayen, tout était en ordre, les enfants au lit, mari aussi au lit. Je n'ai pas même de faire du café. Je suis cachée au lit. En arrivant au lit, ma foi, c'était la loi de la nature, hein, il aurait fallu accepter toutes les combines du mari. Je dis bien merci, si vous venez depuis Saillon ici, vous êtes convaincu de te siffler. Je me suis levé, Marie s'est levée après moi, elle a fait du chenil, elle a réveillé la main à la grange, était à l'écurie, les vaches ont sonnaillé, sont beuglées, les voisins ont entendu.
Le chant. Le vœu et le sujet forment toujours un ensemble. De fait, la subjectivité de la période héroïque ne peut se former qu'en écoutant l'épopée et les discours mythiques glorificateurs. Dans les chambres d'enfants des cultures élevées, comme déjà dans la plupart des sociétés préalphabétiques, le moi se forme dans une promesse de devenir l'objet d'un chant. À sa propre existence, on envoie à l'avance un futur composé de notes. Je suis une image sonore, un éclair en vers, une impulsion dithyrambique exprimée dans un envoi qui, dès le début, me chante qui je puis être. Le héros, l'héroïne, ils seront ce qu'ils s'entendent à l'avance. Car la vie, au temps des sujets héroïques, est toujours sur le chemin qui la mettra en vers. Chaque sujet, tant qu'il résiste au découragement, marche vers sa mise en musique actuelle. Seuls les prêtres monothéistes se grisent de ce quiproquo autoréférentiel selon lequel l'homme veut être comme Dieu. Lorsque les prêtres ne sont pas là, on constate que les hommes ne veulent pas devenir comme Dieu, mais comme un air à la mode. Le chemin que l'on prend pour atteindre l'instant rhapsodique donne à l'existence le sentiment de son avancée, de sa montée. Une tendance immémoriale à connaître l'émulsion dans le cantilène précède le moi. Sa fréquence est sa substance. C'est la raison pour laquelle les ténors et les prima donna peuvent jusqu'à ce jour plonger des stades entiers dans l'excitation et faire trembler de grands théâtres. Ils montrent ainsi, aux plus pauvres en musique, un accès simple à l'émulsion du soi dans des parades vocales. Les pop stars descendent encore plus profondément dans le monde souterrain des orgasmes du moi à prix discount, en interprétant leur sortie au microphone, la mâchoire crispée. Mais l'hystérie autour des ténors et l'agitation pop ne serait pas si attirante si elle n'offrait pas toujours des projections saisissantes de ces puissances anciennes qui provoquent les formations du moi par l'ouïe. Elles séduisent leurs auditeurs dans la mesure où elles promettent, de manière plausible, l'apparition du sujet au cœur de la chanson. Lorsque les auditeurs, prêts à bondir, attendent le moment où entreront en émulsion leurs gestes sonores les plus spécifiques, cela atteste la réalité d'un stade des sirènes formateur du moi archaïque. Un stade dans lequel le sujet doit s'accrocher à une tournure sonore, au son d'une voix, à une image musicale pour, de là, attendre le retour de son instant musical. Dans l'écoute par avance du motif du moi, l'individu noue un pacte avec son propre avenir. Et c'est de cela que naît la joie de vivre en direction de son accomplissement. Tout sujet non résigné vit dans l'attente orthopédique de l'hymne le plus intime, qui sera à la fois son triomphe et son éloge funèbre. C'est ce qui permet à tant de gens de rêver de présenter en public leurs prestations musicales et de sortir d'eux-mêmes, de s'éclater par la récitation. Celui qui entend son hymne a vaincu. Pour ceux que l'on n'a pas chanté, le combat continue, même si Troie est tombée depuis longtemps. Ils ont encore à découvrir cette vérité, c'est dans l'intonation que le sujet arrive au plus près de lui-même. Celui qui se présente pour placer sa geste sonore ne lit pas une partition et surtout ne sait rien des images du soi. Car dans le monde oral, les sujets en devenir ne regardent pas dans un miroir, mais dans le chant. Et dans le chant, je regarde d'abord le passage qui me promet à moi-même, c'est-à-dire mes motifs d'excitation, la mesure de mes hymnes, ma propre fanfare. Les premiers hommes, comme la plupart de ceux de notre époque, ne veulent pas ressembler à quelque chose, mais veulent sonner comme quelque chose. Les chants anciens des grands hommes et des grandes femmes sont encore chez eux, dans un régime d'esprit sonosphérique commun. Ils construisent des monuments sonores, des halles de gloire ou des tumulus sonores, d'où sont descendus les héros pour continuer à sonner dans l'ouïe des générations suivantes. Depuis l'oreille visitée, le sujet est mené jusqu'à lui-même. Dans sa mémoire acoustique ou rhapsodique précoce, se rassemblent quelques rares mesures et gestes sonores qui résonnent devant l'individu comme des leitmotifs issus d'un ciel hymnique. Jusqu'ici, on ne les a pas encore joués, on les a ajournés. Mais dans le même temps, et depuis toujours, ils sont sur le point d'être enfin interprétés. Ainsi je sonne, ainsi serai-je lorsque je serai. Je suis l'émulsion, le bloc sonore, la figure libérée. Je suis le beau passage, le passage audacieux. Je suis le bon qui mène à la plus haute note. Le monde résonne après moi. Lorsque je me montre tel que je me suis promis à moi-même.
Thank you. sur les orchestres, c'est un peu comme moi je regarde mon chemin, c'est un peu comme ça. Ça appartient qu'on ne peut pas oublier tout ce qui se passe dans notre culture, les récits, les témoignages, la musique. Il faut que ça vive, ça. Il faut tout ce que.
Peut-être n'est-ce pas un progrès, mais il est certain que l'époque actuelle est plutôt celle du numéro de matricule. Le destin du monde a cessé pour nous de s'identifier à l'ascension ou à la chute de quelques hommes, de quelques familles. Le monde lui-même n'est plus cette propriété privée, héréditaire et monnayable, cette sorte de proie qu'il s'agissait moins de connaître que de conquérir. Avoir un nom, c'était très important sans doute au temps de la bourgeoisie balsacienne. C'était important, un caractère. D'autant plus important qu'il était davantage l'arme d'un corps à corps, l'espoir d'une réussite, l'exercice d'une domination. C'était quelque chose d'avoir un visage dans un univers où la personnalité représentait à la fois le moyen et la fin de toute recherche. Notre monde, aujourd'hui, est moins sûr de lui-même, plus modeste peut-être, puisqu'il a renoncé à la toute-puissance de la personne, mais plus ambitieux aussi, puisqu'il regarde au-delà. Le culte exclusif de l'humain a fait place à une prise de conscience plus vaste, moins anthropocentriste.
Le mythe du héros, à ce qu'il nous semble, est celui de la souffrance de notre propre inconscient, de l'aspiration inassouvie et rarement réalisable vers les sources les plus profondes de notre être, vers le sein de la mère, et, dans celui-ci, aspiration à la communion avec la vie infinie dans les formes innombrables de l'existence.
Mais le héros et l'égoïste pur sont inconsciemment contre le commerce. Le héros donne et ne reçoit rien, l'égoïste vrai reçoit et ne donne rien. Le vrai héros n'envisage aucune rétribution. Il conçoit que sa nature est de donner tout ce qu'il est et qu'il obéit à sa nature, qui est son plaisir et sa loi. Le pur égoïste est identique et de sens contraire. Tous deux s'acceptent. Mérite et démérite sont des couleurs qu'ils ne perçoivent pas. Le héros n'est pas libre en soi et pour soi. Il semble libre par relativité. Lui et l'autre se confondent dans le très grand homme qui est celui hors du commerce. Et tantôt paraît héros, tantôt égoïste selon la position de l'observateur. Ils sont fermes dans la certitude que les grands actes, les grandes pensées, les souffrances, les jouissances ne servent à rien, ne doivent servir à rien. Rien payer, rien acheter. L'homme a inventé le diable par symétrie, par justice.
C'est quelqu'un qu'on admire énormément et qu'on aimerait suivre, dans le sens reproduire ce que la personne a fait. Et si je devais dire quel est mon héros à moi, je pense que je dirais mes parents, en fait, qui pour moi sont en quelque sorte mes héros, parce que ils m'ont un peu tout apporté, ils m'ont tout donné, et quand je me regarde aujourd'hui, je me dis que si je suis comme je suis, c'est grâce à eux. Et quand je vois typiquement des engagements politiques que j'ai, je les aurais pas, je pense, s'ils n'avaient pas été là. Et je suis extrêmement content d'avoir ces engagements et ces comment on dit ça, je trouve plus le mot, mais une vision du monde et une manière de fonctionner, celle que j'ai aujourd'hui, je pense largement grâce à eux. Donc pour moi, c'est le meilleur. Je les remercie énormément.
Je tiens de ma mère Tétis, déesse aux pieds d'argent, que deux sorts peuvent me conduire au terme de mes jours. Si je reste à me battre ici, devant les murs de Troie, c'en est fait du retour, mais j'y gagne un renom sans borne. Si au contraire, je rejoins les rives de mes pères, c'en est fait de ce bourg-nom. Mais j'aurai longue vie, et n'attendrai que sur le tard le terme de mes jours.
Je n'attendais plus rien quand tout est revenu. La fraîcheur des réponses, les anges du cortège, les ombres du passé, les ponts de l'avenir, surtout la joie de voir se tendre la distance. J'aurais toujours voulu aller plus loin, plus haut et plus profond, et me défaire du filet qui m'emprisonnait dans mes mailles. Mais quoi ? Au bout de tous mes mouvements, le temps me ramenait toujours devant la même porte, sous les feuilles de la forêt, sous les gouttières de la ville, dans les mirages du désert ou dans la campagne immobile, toujours cette porte fermée, ce portrait d'homme au masque moulé sur la mort, l'impasse de toute entreprise. C'est alors que s'est élevé le chant magique dans les méandres des allées. Les hommes parlent, les hommes se sont mis à parler, et le bonheur s'épanouit à la selle de chaque feuille, au creux de chaque main, pleine de dons et d'espérances folles. Si ces hommes parlent d'amour, sur la face du ciel, on doit apercevoir des mouvements de traits qui ressemblent à un sourire. Les chaînes sont tombées. Tout est clair. Tout est blanc. Les nuits lourdes sont soulevées de souffles embaumés, balayées par d'immenses vagues de lumière. L'avenir est plus près, plus souple, plus tentant. Et sur le boulevard qui le lie au présent, un lourd collier de cœurs ardents, comme ces fruits de peur qui balisent la nuit à la cime des lampadaires.
Ça va, c'est ça quand même des machines.